Donc je crois qu'il faut qu'on laisse la parole à Jean-Philippe, et puis je vous rassure, à partir de 16h, il y a une période de synthèse qui permettra effectivement de reposer ces questions, peut-être en les croisant avec les questions des présentations précédentes. Normalement, les choses devraient se recouper. Donc je veux bien que vous gardiez votre question pour ce soir, et puis je laisse Jean-Philippe venir s'installer. Alors, sur un plan pratique, on n'a pas prévu de pause formelle, donc quand vous avez des urgences, vous pouvez sortir, parce que si on fait effectivement une pause, on n'arrivera pas à tout gérer. Donc, je donne tout de suite la parole à Jean-Philippe, qui va à la fois se présenter et nous présenter son exposé.
Bonjour, donc je suis Jean-Philippe Pernin et j'appartiens à l'équipe Ipraxis de l'INRP, donc qui est associée à l'ERT dont a parlé Alain. Je vais faire une présentation autour du concept de scénario, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de résonance avec ce qu'a dit Alain, mais aussi quelques différences de point de vue que je vais souligner. Alors rapidement, qui je suis? Donc je suis maître de conférence en informatique. Vous avez donc encore en face de vous un informaticien, preuve de la pluridisciplinarité de nos approches. Non, je plaisante un petit peu, mais tout ça pour dire que je m'intéresse depuis une dizaine d'années à l'intégration des TIS dans la formation, et j'ai commencé d'ailleurs mes activités dans la formation professionnelle chez les opérateurs de maintenance autour de cette notion de exploitation de simulation à des fins de formation. Et donc ça fait assez longtemps que je m'intéresse à la question du point de vue des usagers. Donc je m'intéresse en particulier à deux points de vue, mais aujourd'hui je vais m'intéresser particulièrement à la notion de scénario pédagogique, à travers donc des activités qu'on a aujourd'hui, des projets qu'on mène, et en particulier un projet qui s'appelle COSA. Apparemment, ça grésille, je vais m'écarter un petit peu. Et qui a affaire à, comme son nom l'indique, la collecte et l'analyse des usages de scénarisation d'activités d'apprentissage par les enseignants. Donc je vais faire une présentation qui va être tournée du point de vue du concepteur, de l'enseignant, du tuteur, donc de la personne en charge de la mise en œuvre de ce scénario dans les activités d'apprentissage. Alors, le premier point, je vais raisonner sur ce qu'a dit Alain autour du terme d'environnement informatique, en particulier par rapport... Alors, je ne sais pas si j'ai passé... Ah ben, il y a un transparent qui passe automatiquement, je ne sais pas pour quelle raison, mais je vais le essayer de l'afficher quand même de façon un petit peu dégradée. Je repars d'une définition de ce que c'est qu'un EIH selon un groupe de travail qui s'est réuni pendant 2 ans et qui a abouti en 2003, il me semble, à une définition d'un EIH qui était la suivante. Donc un environnement informatique pour l'apprentissage humain est un environnement informatique, comme son nom l'indique, conçu dans le but de favoriser l'apprentissage humain, c'est-à-dire la construction de connaissances chez un apprenant. Ce type d'environnement mobilise des agents humains et artificiels et offre des situations d'interaction localement ou à travers des réseaux informatiques. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'on utilise beaucoup ces termes aujourd'hui dans nos communautés, mais avec beaucoup, beaucoup de sens différents. Et là, il y a vraiment un problème de terminologie. Et je vais donc poser ces questions. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement informatique ? Et aujourd'hui, il y a des points de vue qui sont souvent orientés par toute une histoire qui s'est déroulée depuis une trentaine d'années à travers des cycles que vous connaissez tous, EAO, EIAO, etc. Alors, pour ça, je veux aussi expliquer qu'aujourd'hui, il y a des réalités qui sont totalement, qui peuvent être assez découplées de cette vision des chercheurs de ce que c'est qu'un EIH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, et de plus en plus, voire même une majorité d'apprenants, tous les gens qui ont au moins Internet à la maison, qui ont une utilisation de ces artefacts numériques dans l'apprentissage. Ça peut être aller chercher de l'information sur Internet, aller chercher des sources, etc. Donc des situations qui sont extrêmement variées. Il n'y a pas que la situation de classe ou bien la situation d'un apprenant vis-à-vis d'un ordinateur, mais tout un tas d'autres situations de collaboration, plus ou moins instrumentés avec l'ordinateur, plus ou moins collectives, collaboratives, dans des enceintes plus ou moins ouvertes ou dédiées à l'acte d'apprentissage, Donc des situations très différentes et aussi des artefacts très différents aujourd'hui qui vont se diversifier de plus en plus. Des ordinateurs portables, des dispositifs de vidéoprojection par exemple, des tableaux interactifs, des palmes, tout ce que vous voulez. Donc une grande variété et des situations et des artefacts. Alors est-ce que les définitions qu'on a données tiennent encore le coup face à cette diversité aujourd'hui ? Alors, je voulais insister en particulier autour du terme environnement. Alors, cette réflexion vient en fait d'un groupe de travail, enfin d'un symposium qui a été organisé par Luc Trouche et Dominique Guin en septembre dernier, et qui a réuni un certain nombre de chercheurs venant de disciplines très différentes et qui chacun ont une définition de ce que veut dire environnement. Et cette définition est très différente et on peut donc désigner l'environnement comme l'ensemble de tous les facteurs qui entourent une situation d'apprentissage, aussi bien organisationnel, humain, matériel, donc quelque chose d'extrêmement large et complet. D'autre part, vous pouvez, donc ici vous voyez cette situation de classe, il y a des ordinateurs. On peut désigner l'environnement informatique, donc il fait partie de l'environnement de façon générale, comme étant l'ensemble des fonctions disponibles sur mon écran. Et là, il y en a tout un tas, y compris celles pour l'apprentissage, mais il y en a d'autres. J'ai un système d'exploitation, j'ai un ensemble de ressources que je vais utiliser, et pas qu'un logiciel à un moment donné. Donc, l'environnement informatique, l'ensemble des fonctions regroupées par un ou même plusieurs artefacts. On peut faire communiquer des artefacts entre eux. Troisième sens possible, on utilise beaucoup le terme ENT en ce moment, environnement numérique de travail. Entre guillemets, on pourrait ajouter pour la formation. Le terme environnement numérique de travail est souvent un petit peu excessif parce que ce n'est pas que le travail, c'est d'organisation des activités de formation, que ce soit administratif, pédagogique, etc., etc. Donc environnement numérique de travail, encore un autre terme qui me permet d'accéder à un ensemble de ressources différentes, logicielles en général. Et puis donc ces ressources, elles peuvent s'appeler EIH. Donc on a un quatrième niveau, on a un environnement informatique intégré qui me permet de mener une certaine activité à un moment donné. Donc là on voit au moins quatre niveaux, il peut y en avoir plus, qui organisent le terme d'environnement. Alors de quoi parle-t-on quand on dit je parle des EIH ? De quels environnements on parle ? D'ailleurs il y a d'autres termes qui sont employés comme environnement d'apprentissage informatisé, donc qui est utilisé par d'autres disciplines et qui désigne effectivement tout ce qui va autour, que ce soit des relations humaines, organisationnelles, de cet environnement. Donc là, un problème qu'on a pu détecter. Donc ces quatre sens-là, le sens environnement d'apprentissage informatisé, quelque chose de très large, quelque chose de beaucoup plus technique. Donc on est dans le cadre de l'environnement technique et l'environnement informatique, toutes les fonctions qui sont réunies. L'environnement numérique de travail, qui va permettre d'intégrer des services, des fonctions au sein d'un seul espace logiciel. Et puis enfin, les EIH, des logiciels dédiés à une tâche spécifique d'apprentissage. Alors cette vision pose un problème. Alors là, je rebondis sur un des chapitres de l'ouvrage de Pierre Abardel, qui est autour du caractère systémique de cet environnement. Il y a tout un tas d'instruments qui vont coopérer entre eux et on ne peut pas dire qu'on peut prévoir, développer un artefact pour une situation donnée. Ça peut être la vision du concepteur. L'utilisateur sera confronté à un ensemble d'artefacts intégrés dans un ordinateur, mais d'autres artefacts, ne serait-ce que moi actuellement, j'ai d'autres artefacts pour mener mon discours, j'ai du papier, j'ai une montre ici pour savoir le temps qui s'écoule, et j'en ai besoin pour mener ma situation. Donc, des situations complexes et des artefacts qui ont des rôles différents. Alors, dans ce chapitre 10 là de l'ouvrage qu'on étudie aujourd'hui, donc on a cette notion d'outillage, donc par rapport à un exemple précis de formation qui est là plutôt tournée vers des tâches d'opérateur. Donc l'outillage, c'est un ensemble homogène d'instruments construits par un opérateur et voire même augmenté par l'opérateur de nouvelles fonctions que lui-même va pouvoir créer par rapport à sa pratique. Donc, cette notion d'intégration au sein d'un ensemble cohérent et pertinent pour un acteur donné. Alors, cet acteur peut être le concepteur ou peut être l'utilisateur final. Je vais me tourner du point de vue du concepteur aujourd'hui, sachant que ce concepteur, je l'entends par l'enseignant qui va avoir plusieurs rôles tout au sein du processus, depuis la conception initiale jusqu'au suivi de la formation, voire à son évaluation, donc un rôle qui est multiple. Alors, si on reprend l'exemple fourni dans l'ouvrage, on a un exemple de planification d'intervention de maintenance sur un réseau de télédiffusion. Et quelle est la tâche de l'ordonnanceur? Donc, il y a un certain nombre d'artefacts, un tableau d'activité où il va placer tel opérateur doit faire à tel moment telle intervention pour tel problème de maintenance, un journal de bord, un logiciel, et puis un ensemble d'outils, fax, téléphone, carte routière. Et puis, il va devoir combiner l'ordonnancement à long terme, comment je dois prévoir l'activité de tous les agents qui vont intervenir, et d'autre part, des réajustements très rapides qui vont être faits en fonction d'intervention en urgence, donc de réajuster la tâche en fonction de cette vision prévue à long terme qui est dérangée par des événements un peu exceptionnels. Alors, on parle de... Oh, bon, j'ai encore un problème de... je vais passer là-dessus ou peut-être le commenter. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a un processus de réaffectation des ressources par l'opérateur qui va être sur une analyse de la situation, puis après de voir quels sont... Alors tout ça est fait en fonction de panne d'un artefact. Un artefact ne marche plus. Comment je vais recombiner mon ensemble d'artefacts pour pouvoir mettre à jour mon activité? Donc j'analyse la situation, je fais l'état de ces artefacts disponibles, et puis je vais choisir certains artefacts pour pouvoir recombiner mon activité, et puis je vais refaire une nouvelle planification de mon activité, puis ensuite créer une nouvelle planification. Alors je ne dois pas être sur la bonne version de transparent, je suis désolé de ce problème. Alors ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a on peut faire un parallèle entre ce point de vue développé autour de la réaffectation de ressources avec les situations d'apprentissage. Donc, et la conception de situations d'apprentissage. Donc, en particulier, on peut faire un certain nombre de constats. C'est que les artefacts avancés, ce que j'appelle les EIH, tels qu'on les conçoit dans leurs acceptions habituelles, sont relativement peu déployés dans les contextes opérationnels de formation. C'est souvent dans des laboratoires ou dans des contextes relativement restreints, à la différence de systèmes ouverts qui, cette fois-ci, peuvent être déclinés sous plein de formes différentes. Mais par contre, il y a tout un tas d'autres artefacts qui sont utilisés dans les situations par les apprenants, en particulier, par exemple, les chats, des sites web. Et là, on va aussi arriver sur quelque chose qui était décrit dans le transparent précédent, c'est qu'il peut y avoir des équivalences entre les instruments que je me donne. Un exemple flagrant, tout un tas d'outils intègrent des fonctionnalités de chat ou de courrier électronique. N'importe qui a un courrier électronique par ailleurs, voire à 4, 5, 6 adresses de courrier électronique. Il y a 5 ou 6 façons différentes de faire la même action de communication avec quelqu'un d'autre. Il va choisir une de ces instruments parmi ceux qu'il a à disposition, et sans doute pas celui offert par l'outil intégré. Il va choisir celui qu'il utilise le plus souvent, celui auquel il est habitué. Donc il y a cette idée ici que quand on conçoit un EIH aujourd'hui, on ne s'intéresse pas suffisamment aux pratiques des utilisateurs de ces systèmes d'artefacts numériques. On ne les prend pas assez en compte, et donc on ne prend pas assez en compte cette dimension systémique des instruments numériques. Et puis que, en fait, le concepteur s'intéresse à un rôle imaginaire un petit peu de son artefact, celui qu'il crée, comme intégrant toutes les fonctions et permettant de faire une tâche donnée à un apprenant. Donc, et ces visions, elles ont évolué dans le temps, depuis 20 ou 30 ans, et je vais essayer de faire rapidement un historique de ces visions-là. Alors, je vais faire cet historique en prenant trois axes de réflexion. Le premier, c'est comment on représente la connaissance ou l'intention didactique dans ces artefacts. Deuxièmement, comment on contrôle l'activité de l'apprenant, comment on peut avoir une vision de l'activité de l'apprenant, y compris à travers des traces, si je rebondis sur ce que dit Alain. Et puis, quelle représentation informatique, quelle architecture informatique je vais donner à mon artefact pour qu'il puisse être disponible à telle ou telle personne. Alors, si on revient à l'approche initiale EAO, donc très basée sur le comportement, sur un processus stimulus-réponse, donc là, on a développé des programmes, l'enseignement programmé, donc des programmes qui vont envoyer des stimulus à un apprenant, et on supposait que ces stimulus déclenchent des réponses chez un apprenant qui vont permettre de contrôler donc son activité, est-ce que c'est la bonne réponse, puis après de progresser dans le programme. Donc on a développé des artefacts où les connaissances ne sont pas du tout, et les intentions didactiques ne sont pas du tout explicitées, mais sont sous-jacentes. Ce qui est visible, c'est les activités demandées, leur contrôle et les rétroactions associées. Donc, artefact intégré, unique, un logiciel EAO, on a vu ça donc, pendant au moins une dizaine d'années ou quelques dizaines d'années. Ensuite, la vision s'est un petit peu modifiée. On a voulu intégrer, donc ça c'est les apports de l'IA, les possibilités de raisonnement de l'ordinateur comme faisant partie intégrante du logiciel. Donc cette fois-ci, on va modéliser auparavant les connaissances sous forme de modèle du domaine ou modèle de l'apprenant. Puis ensuite, on va créer un module pédagogique qui va réaliser la correspondance entre ces modèles idéaux de comment acquérir la connaissance avec les activités proposées à l'apprenant. Et donc, on va avoir une architecture qui est de ce type-là, donc traditionnellement sous quatre composants. Et de façon encore une fois intégrée, on développe un logiciel EIAO qui, cette fois-ci, va tout intégrer, la connaissance explicitée, le modèle de l'apprenant, les activités, son contrôle, etc., etc. Ensuite, on a eu une transformation de cette vision à travers les apports des hypertextes en particulier et le fait qu'il n'y a plus un seul artefact originel, mais il y a un ensemble d'artefacts qu'on va lier entre eux. Donc, c'est quoi un artefact dans ce cas-là? Ça peut être une page de présentation de connaissances, ça peut être une image, une simulation. Donc, on va lier ces choses-là entre elles à travers des réseaux que va pouvoir parcourir l'apprenant. Donc là, ici, donc une première idée de combinaison d'artefacts dans un super artefact qu'on peut appeler hypertexte, hypermédia ou ce que vous voulez. Et cette fois-ci, l'apprenant est plutôt dans des stratégies d'exploration, de navigation dans ces mondes qui sont proposés. Et on commence à voir un découplage du contrôle de l'activité qui n'est plus dans le logiciel lui-même, qui peut être assuré par d'autres environnements qui vont contrôler cette navigation. Qu'est-ce que tu as fait avant, où tu en es maintenant. Les connaissances, cette fois-ci, sont réparties dans tout un tas d'artefacts différents. Donc, il devient très difficile d'avoir une vue d'ensemble des connaissances à faire découvrir ou apprendre, sachant que chacun des items peut avoir des modalités différentes de présentation, de manipulation de cette connaissance. Plus récemment, on a pu relever un nouveau terme qui est celui d'objet d'apprentissage, donc c'est une vision très anglo-saxonne de l'apprentissage, où on va pouvoir prendre des objets préexistants, des artefacts préexistants appelés objets d'apprentissage, learning objects, qui peuvent être n'importe quel type, et qui vont être distribués dans des réseaux. Tel artefact peut être à tel endroit ou à tel autre. Et puis, on va développer des environnements intégrateurs, bon, qu'on peut appeler ENT, système de gestion d'apprentissage, LMS en anglais, ce que vous voulez, et qui ont pour but, entre autres fonctions, d'intégrer ces artefacts répartis avec une vision unique, homogène pour l'utilisateur. Alors, donc, différents services dans ces ENT, des services donc de planification, d'agrégation de ressources, d'autres services de communication entre les personnes et des services de contrôle de l'activité, savoir si tel ou tel objet a été parcouru. Par exemple, un protocole qui s'appelle SCORM va juste valider le fait que telle ressource a été parcourue ou pas, et de là, on va déduire que la connaissance a été acquise ou pas. Simplement parce qu'on a ouvert le fichier. Donc, ce genre de choses où là, la connaissance, encore une fois, est très répartie dans chacun des objets. Les intentions didactiques ou pédagogiques sont plutôt du côté de l'environnement intégrateur qui essaye d'orienter, mais sous une forme très séquentielle en général, le parcours de ces unités d'apprentissage. Enfin, aujourd'hui, on a une dernière vision, et c'est sur celle-là que je vais m'appuyer maintenant, qui a été introduite du côté des environnements logiciels, mais il y a tout un tas d'autres secteurs disciplinaires qui, depuis longtemps, centrent les propos sur l'activité. Là, je ferai les mêmes remarques qu'Alain à propos de nos bases disons scientifiques sur les sciences humaines. Les miennes sont relativement faibles, mais j'ai un corpus de connaissances qui fait que je sais aussi que ça fait quand même 70 ans qu'on s'occupe de centrer l'apprentissage sur l'activité. On a l'impression qu'on redécouvre ça aujourd'hui dans les environnements informatiques de façon très récente, alors que les théories existent depuis très longtemps. Donc, qui vont présenter des langages de modélisation pédagogique qui vont être centrés sur l'activité des acteurs et sur cette notion de rôle d'acteur et puis aussi d'environnement dans lequel vont se dérouler ces activités. Et ces environnements vont être composés de certains artefacts qui vont être manipulés par les apprenants. Et puis, autre chose aussi, c'est que ces environnements numériques de formation, dans cette vision-là, deviennent des lieux d'interaction, non seulement entre des apprenants et des artefacts, mais des apprenants entre eux. Donc, gérer d'autres interactions que des interactions système humain. Donc, aussi des interactions humain vers humain. Donc, complexification des environnements. Alors ça, c'est un tableau récapitulatif un petit peu de ces différentes approches pour dire qu'il y a un glissement progressif de la vision de ces logiciels EAO. Je ne vais commenter que la première colonne qui est en bleu, en disant on est passé de logiciels EAO totalement intégrés vers aujourd'hui des systèmes complexes, donc des systèmes d'instruments qui sont des environnements intégrateurs, des objets d'apprentissage, des outils, des services, donc des objets complexes. Donc, une des problèmes soulevés par ces communautés pluridisciplinaires dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a plusieurs disciplines, que ce soit didactique, psychologie, sociologie, sciences de l'éducation, informatique, qui sont présentées, s'entendent sur les concepts. Et qu'on a des visions assez différentes de ces concepts, et c'est normal, mais par contre qu'on s'entende sur des sens communs à des choses qu'on va pouvoir manipuler. Entre autres termes, il y a ces termes de ressources, d'artefacts, qui sont peut-être deux visions différentes pour désigner un même objet, mais pas toujours. Le terme de ressources peut être pris dans le sens de ressources humaines, de ressources matérielles, de ressources informatiques. Termes de dispositifs d'apprentissage, de situation, d'environnement, etc. Je dirais qu'il y a, à travers des interactions qu'on a pu avoir entre chercheurs, qu'il y a quand même deux visions principales qui sont soit centrées sur les intentions didactiques et sur l'intégration de la connaissance dans la démarche de développement de situations d'apprentissage, et d'autre part, d'autres visions qui sont plus orientées sur le comportement dans ces systèmes d'artefacts. Alors là, c'est une proposition que je fais dans le cadre de cette présentation, c'est que on met au point un modèle qui va être centré sur un objet central qui va s'appeler scénario d'apprentissage et qui va essayer de prendre un ensemble de contraintes. Ça va être un objet qu'on pourrait appeler un artefact symbolique qui va essayer de prendre en compte certaines contraintes liées à cette complexité des situations. Alors, là, c'est un tableau qui essaye de résumer ce que j'ai dit tout à l'heure sur environnement. Donc, c'est présenté de façon hiérarchique. Un environnement peut être un environnement d'apprentissage informatisé de façon générale avec des aspects sociaux, organisationnels et des aspects techniques. dans ces aspects techniques, il y a des environnements informatiques et des environnements non informatiques, les objets que j'ai à disposition ici pour telle ou telle activité, donc j'ai des objets non informatiques. Dans chacun de ces deux environnements, il y a des environnements qui peuvent être distingués entre des environnements de manipulation de connaissances, enfin plutôt des artefacts de manipulation de connaissances qui peuvent être des hypertextes, des simulations, des sujets d'exercice, ce que vous voulez, tout ce qui va m'amener à manipuler de la connaissance qui est intégrée de façon implicite ou explicite dans l'objet, et d'autre part, des outils qui me permettent de faire un certain nombre d'activités et dans lesquelles ne sont pas intégrées auparavant, a priori, des intentions didactiques. Et d'autre part, du côté informatique, il y a autre chose qu'on appelle les environnements numériques de formation, donc il y aurait des environnements intégrateurs des autres fonctions et que je vais pouvoir manipuler grâce à ces systèmes. Alors, je voudrais revenir sur le terme de scénario tel qu'on l'entend nous. On ne l'entend pas du tout dans son sens, enfin peu dans son sens courant. Donc pour nous, scénario, déjà si on prend les définitions initiales, donc trouvées dans des dictionnaires soit de théâtre, soit de cinéma, donc on insiste sur le fait que ce ne sont que des canevas. Un scénario n'est pas une prescription absolue de ce qui va se dérouler, mais ce sont des canevas et qui vont être réajustés au moment de leur mise en œuvre. En particulier, là, si on prend la deuxième définition, cette personne dit que ce sont des propositions de situation qui vont être transformées et un tas d'acteurs vont malaxer cette proposition pour obtenir un résultat final, mais à travers un ensemble de... Là, on voit, donc il y a l'écran qui va recevoir le produit final, le couturier, c'est le cinéaste, le corps, c'est le comédien, etc., qui vont le faire exister. Donc, quelque chose de compliqué. Un scénario, ce n'est pas que prévoir une situation, c'est aussi quelque chose qui va évoluer dans le temps. Donc, c'est ce qu'on essaye de défendre. Donc, autour du fait que ces situations d'apprentissage, notamment instrumentées avec des technologies partiellement numériques, ce sont des situations complexes. Donc, il faut avoir des objets symboliques qui puissent traduire cette complexité afin de mieux la gérer. Alors, cette notion de scénario d'apprentissage, on essaie de la développer selon deux angles, un angle de processus qu'on va appeler la scénarisation et d'autre part des états intermédiaires des objets qui vont être des scénarios à différents moments de leur gestation, de leur exploitation ou de leur évaluation. Alors, ce processus repose sur ces cinq phases qui sont des phases idéales, hein, qui ne sont pas du tout des phases absolument qui doivent être enchaînées de façon obligatoire. Donc une conception initiale qui est didactique et pédagogique, je reviendrai là-dessus, après sur l'articulation didactique et pédagogique, et qui aboutit à un scénario abstrait qui est une espèce de canevas dont on a parlé tout à l'heure, donc les intentions qu'on a de faire en termes de situation, qu'est-ce que je prévois comme type d'acteur, comme type d'activité, comme type d'artefact. Ensuite, une contextualisation en fonction d'une situation précise, avec des apprenants précis, des outils précis, un moment précis, donc on va contextualiser cette situation, on va sans doute affiner à ce moment-là ce canevas, en faire quelque chose de plus précis, et on va obtenir un scénario contextualisé qui par la suite va être implémenté de façon technique à travers des possibilités d'intégration des fonctions prévues dans des systèmes informatiques. Et là, il y a un vrai problème ici. C'est que entre ce que conçoit un pédagogue ou un didacticien et les possibilités offertes par un environnement d'intégration de services, par exemple, tel qu'un ENT, ben, il y a peut-être une grande marge. Et en fait, on va concevoir souvent d'après les possibilités offertes et non pas d'après ses intentions initiales. Donc, la phase suivante, après l'implémentation technique, c'est celle de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va utiliser. Il y a des acteurs qui vont être les apprenants, les tuteurs, qui vont jouer avec ces scénarios qui sont prêts à exécuter, ils vont les transformer, les adapter selon leur propre vision, peut-être en ajoutant de nouveaux artefacts, peut-être en replanifiant les activités, donc quelque chose de très dynamique autour de cet objet scénario. Et à la fin, on aboutit à un scénario effectif qui est le déroulement tel qu'il a été constaté de la situation en termes de à la fois d'activités réalisées, de ressources utilisées, d'acteurs impliqués, de communication effectuée. Et puis on peut avoir des retours ensuite vers les conceptions initiales ou telles qu'elles ont été décrites au début. Donc dans ce système, il y a des boucles qu'on peut isoler, une boucle de conception qui est en fait des choses où on tourne autour des intentions initiales, de la disponibilité des outils, du fait de créer de nouveaux outils, le fait de les intégrer dans un environnement technique qui existe, qu'on a à disposition, et on réajuste donc ces intentions dans ces boucles. Il y a une deuxième boucle qui est la boucle d'adaptation, où cette fois-ci, c'est pendant l'usage, et ben, ces scénarios vont être encore malaxés par les utilisateurs pour obtenir quelque chose de différent de ce qui avait été prévu. Et enfin, la dernière boucle, c'est la boucle de réutilisation, où on va peut-être reprendre à partir des choses constatées, revoir les intentions initiales et réajuster les scénarios abstraits qu'on avait pu détailler au début. L'idée ici, alors encore une fois, je ne suis pas sur la version définitive, donc ce n'est pas très joli. Je voudrais vous montrer que cet objet scénario, c'est un objet complexe, qui a plusieurs facettes, et ce n'est pas que de la prescription. Il y a des modèles aujourd'hui qui réduisent, comme des langages de modélisation pédagogique, qui ont tendance à réduire la scénarisation à la seule tâche de prescription. Donc ce que je dis ici, c'est qu'il y a ce volet prescription qui essaye de préciser les relations à la fois en termes de rôle, d'activité, d'environnement utilisé, et puis les résultats escomptés, donc qui vont être les résultats des activités, de nouvelles ressources qui vont être intégrées dans les environnements. Il y a une deuxième facette qui est celle de l'observation, c'est-à-dire, et là je rejoins les remarques d'Alain sur le fait qu'un scénario, ce n'est pas que prévoir ce qui doit se passer, c'est prévoir ce qui risque de se passer en fonction des activités différentes de ce qui a été réalisé. Donc cette facette observation va permettre de faire de la régulation par la suite. Et cette régulation peut avoir plusieurs conséquences, soit de nouvelles prescriptions, soit aussi de nouvelles intentions didactiques. On réajuste les intentions didactiques parce que l'observation a indiqué que telle faiblesse a été détectée, il faut revoir ces plans en termes de régulation didactique. Et là, quand je montre ce modèle, je ne dis pas qui est impliqué. Ça peut être aussi bien un tuteur pendant la situation, un concepteur avant, qu'un apprenant pendant la situation. On peut soi-même, en tant qu'apprenant, se réaffecter de nouveaux objectifs en termes de connaissances que ceux qui ont été assignés par le système. Donc cet objet que je montre ici sous la forme d'une espèce de molécule formée de quatre atomes qui sont, que je nomme la KOPR, donc qui veut dire connaissance, observation, prescription, régulation. En fait, l'idée derrière, c'est qu'à partir de ce processus dynamique, cet objet scénario va avoir une première vision que vous voyez tout en bas à gauche, ici, qui est la vision prévue, prescrite, et après va s'enrichir. Le volet prescription va être affiné dans cette activité de contextualisation. Puis après, donc aussi bien sur les volets prescription, observation que régulation, on affine. Et puis ici, on va adapter un environnement technique. Alors, peut-être on va retrancher, parce que des choses, on ne peut pas les faire. On va sans doute aussi ajouter, encore affiner, encore préciser les choses. Et puis enfin, au moment de l'exploitation, l'utilisateur, pour peu qu'il ait une vision de ce scénario, de qu'est-ce qui a été prévu, sous ces quatre facettes, en termes à la fois de qu'est-ce qui m'est prescrit en termes d'activité, mais aussi quelles sont les intentions didactiques, donc c'est quelque chose d'important, qu'est-ce qu'on attend de moi en termes de connaissances, et qu'est-ce qu'on va observer de moi. Donc, oui, pardon, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez au bout quand je suis debout, au fond quand je suis debout ou pas trop? Hein? D'accord, ok. Donc, je dis que cet objet évolue et donc les utilisateurs en phase d'exploitation vont réajuster et voire invalider des hypothèses de départ pour recréer de nouveaux objectifs en termes d'observation, de régulation, de prescription ou d'auto-prescription. Et puis après, l'évaluation va faire qu'on va peut-être retrancher des facettes à ce qui a été développé ici pour pouvoir avoir un modèle réutilisable. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrancher? Je ne sais pas exactement, mais on pourrait retrancher différentes choses. Un des derniers transparents, l'avant-dernier, je pense. Donc, l'idée ici, c'est de dire que un point important qui est articulation entre les intentions didactiques et l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a des modèles aujourd'hui qui ont tendance à centrer sur l'ingénierie pédagogique avec uniquement l'articulation des rôles, des activités et l'environnement associé, et que par contre, avoir cette vision où les activités sont toujours liées à une stratégie didactique qu'on nous a fixée ou que soi-même a fixée pour pouvoir obtenir certains résultats en termes de connaissances. Donc cette vision ici où le scénario pédagogique est un objet central d'articulation entre des intentions et un environnement matériel, en l'occurrence, tel que je l'entends moi, environnement matériel d'apprentissage, fait de tous les artefacts numériques ou non numériques. Les conséquences en termes informatiques, c'est peut-être revoir un petit peu la vision sur du développement de ces artefacts, que ce soit les artefacts, ce que j'appelle de manipulation de connaissances, mais aussi les artefacts d'intégration des ressources, vers des qui peuvent respecter des contraintes. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils reconfigurables. L'idée, c'est que les environnements d'intégration doivent pouvoir piloter les artefacts logiciels. Et ça, comme le disait Alain, ça commence à être possible au niveau technique informatique. On commence à pouvoir piloter des objets pour peu qu'ils se prêtent au jeu. Je suis prêt à être piloté. Et puis, en termes d'artefacts plus individuels, logiciels, donc l'idée aussi peut-être d'exhiber les scénarios d'usage des artefacts eux-mêmes. Faire en sorte qu'ils soient reconfigurables en termes d'usage dans des environnements différents. Donc, cette notion d'ouverture des artefacts. Il me restait un transparent que je n'ai pas dans cette version-là. Donc, les questions que je voulais poser autour de cette présentation, donc c'est cette vision un petit peu systémique des artefacts informatiques, le fait que peut-être on a une phase un petit peu charnière aujourd'hui en termes de développement informatique où il faut repenser les méthodes de développement informatique autour de ces idées de système d'artefacts, et qu'on ne peut pas développer un artefact informatique sans penser à son intégration ultérieure, à ses usages ultérieurs dans des systèmes complexes d'acteurs et d'environnement. Et enfin, peut-être quelque chose que je peux remontrer à travers ce schéma-là, l'idée, ça peut être que tout ça est instrumenté par un système informatique. Donc je crée des scénarios informatisés, donc j'en fais un objet informatique manipulable, et que vous voyez ici quelque chose qui s'appelle régulation, qui est tout en haut, mais je peux très bien faire ici un trait en dessous de régulation, en dire, mais la régulation, est-ce qu'elle doit être assurée uniquement par un système informatique, ou bien elle peut être déléguée à l'être humain? Et donc là, on arrive à une vision, si je remets ici cette couche-là, une vision d'interface, où la personne en charge de la régulation, ça peut être a priori, pendant ou a posteriori, a une vision de ces trois facettes que sont les connaissances qu'on m'assigne, les prescriptions que je commande ou bien qu'on me commande à moi-même, et qu'est-ce qui va être observé de mon activité, ou qu'est-ce que je demande d'observer. Avec, pour finir, une dernière remarque, c'est peut-être aussi une question vers Alain. On n'a pas du tout envisagé tout à l'heure le côté éthique du traçage et de l'observation. Et je pense que c'est très important de dire, quand on observe, si le sujet se sait observer, il a aussi de grandes réticences, d'après ce qu'on peut constater, à être observé par des systèmes numériques, par les capacités de traçage, voire même par des simples problèmes de droit au traçage de l'activité d'un apprenant. Voilà donc ce que je voulais dire autour de cette notion de scénario et de scénarisation.
Merci Jean-Philippe, d'abord parce que tu as tenu le temps, donc c'est bien pour moi. Et à peu près 5 minutes pour questions et réponses. Pourquoi pas?
Juste sur la question éthique. Oui, bien sûr. Alors, encore que dans le scénario que je prends, dans l'exposé que j'ai fait, l'apprenant, c'est le propriétaire de sa trace. Il n'y a personne d'autre qui la regarde. Il faut qu'il la documentarise. pour qu'elle soit disponible auprès d'autres. Et ça, c'est dans un processus conscient. Lorsqu'il n'est vraiment, il n'est pas imaginable que cette trace puisse être utilisée indépendamment de sa volonté. Ce serait stupide, quoi. Et s'il y a le moindre doute là-dessus, ben, le système s'écroule, quoi. C'est évident. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que le système de traçage soit encrypté de façon à ne pouvoir être observé de l'extérieur qu'avec la clé que posséderait l'utilisateur comme son login. C'est à ce niveau-là, c'est un niveau de sécurité maximal. Après, pouvoir exporter dans des conditions d'observation qui sont contrôlées comme on en fait d'habitude, avec des sujets, auquel cas l'utilisateur n'est plus un utilisateur en train d'être espionné, mais un sujet participant à une expérimentation. Le problème ne se pose plus. On va travailler dans des conditions contrôlées. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va exploiter ce que vous voyez, comment ça se passe, etc. Éventuellement, d'ailleurs, les traces ne seront pas les mêmes. Parce qu'elles n'auront, comme disait tout à l'heure Dominique Guin, elles n'auront pas la même intention pour les observateurs. Donc, on ne s'agit pas de la même. Donc, je pense que le problème éthique qui m'a souvent été posé vient du fait qu'on considère que la trace est faite sur un serveur quelque part qui capte tout. Non, non, la trace, elle est sur le client. Elle est sur le poste de celui qui est en train de voir, pas ailleurs. Hein.
C'est bon. Philippe Cottier, donc LIUM, laboratoire d'informatique de l'Université du Maine. Je ne suis pas informaticien, mais je suis dans le labo. J'étais très intéressé par votre présentation. Il me semble que... Alors, on avait travaillé avec des collègues sur cette idée, sur la manière dont on pouvait penser les systèmes dans leur conception. Et puis, plus on a avancé, plus on s'est dit, mais où est la conception? Est-ce qu'elle est avant, pendant, après? L'usager, bah, lui, fait de la conception aussi. Le concepteur, c'est souvent le premier usager, le premier utilisateur. Donc on avait du mal à situer tout ça. Et on avait pensé un petit peu, et on s'était posé la question notamment que vous avez soulevé, pourquoi les EIH produits par les labos sont si peu utilisés dans le domaine courant, hein, hors de la recherche. Et on avait quelques hypothèses, vous en avez abordé quelques-unes. Je voudrais juste en rajouter quelques-unes, et puis savoir si vous êtes d'accord ou pas. Donc à la volée, je vais faire ça comme ça. Nous, on s'était dit que les modèles computationnels étaient satisfaisants pour les informaticiens qui avaient besoin de développer. Et donc, on faisait une sélection. Enfin, en général, il y avait une sélection de modèles en fonction de leur computationnabilité. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut développer ces modèles-là ou pas. Donc, il s'opérait des tris. À partir d'un ensemble de théories, est-ce que les langages de programmation permettaient de développer ou pas tel ou tel modèle. On avait nous développé cette hypothèse-là. Et puis il y avait aussi l'idée que le terrain limiterait, entre guillemets, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais que le terrain limiterait le système ou la recherche dans le domaine informatique, et qu'il était intéressant ou plus intéressant de partir de modèles issus des sciences cognitives ou de la pédagogie, d'essayer de les implémenter. Et c'est vrai qu'après, on se retrouve avec des systèmes qui, certes, sont peut-être satisfaisants du point de vue informatique et pédagogique, mais quand on va sur le terrain, après, ils sont difficilement utilisables parce que les gens ne s'y retrouvent pas. Finalement, on se retrouve avec des systèmes qui sont difficilement paramétrables, assez rigides, assez fermés. Et puis, on s'est dit que on pense que c'est le modèle d'ingénierie. Et là, vous en avez parlé au travers de la question des scénarios. On pense que c'est le modèle d'ingénierie qui est souvent utilisé, qui pose difficulté. On installe un moment de conception et puis on installe un moment de l'usage. Alors, quand on regarde, c'est vrai, comment les choses se passent, on se dit, alors moi, je travaille sur un projet, je suis responsable d'un projet de recherche, je travaille sur un livret électronique d'apprentissage dans le cadre d'un centre de formation et d'apprentissage. Et les gens, depuis 20 ans, 30 ans, travaillent sur un livret papier. Donc, c'est un outil que l'apprenti, quand il va en entreprise, bah, il amène. Et puis, le maître d'apprentissage ou le patron bah, écrit, note des choses, l'apprenti écrit des trucs, il revient avec au centre de formation d'apprentissage, tout le monde écrit les choses. Puis, c'est un outil qui, tous les 2-3 ans, est refait par les enseignants parce que ça ne les satisfait pas, etc. Et puis, on a, parce que nous, on fait une formation par apprentissage, on a travaillé avec eux, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être avoir certaines fonctionnalités mises en ligne pour certaines formations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le processus de conception était déjà existant, sans qu'il y ait d'informaticien. Et qu'on est arrivé, avec le projet de recherche, on est arrivé dans un processus, dans une genèse, hein, existantes, et qu'on a du mal à bien différencier ce qui est du domaine de la conception, ce qui est du domaine de l'usage. Alors, je reviens un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de conception d'usage. Je me pose la question de savoir où est la conception et où est l'usage et comment on peut peut-être qualifier ça autrement.
Voilà. Bon, je pense que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais j'ai un avis. Donc, l'avis, c'est effectivement, je parlais plutôt de conception par l'usage. Bon, de façon un peu générale. Mais peut-être que je rebondirai quand même aussi sur des exemples qui ont été donnés dans l'ouvrage de Pierre Rabarnel autour de cette intégration des outils informatiques. Ou pas. C'est-à-dire aussi, je crois qu'il a fait une analyse en disant qu'il y a des familles d'activités et des familles d'utilisateurs et que cette gamme d'artefacts qui peuvent être, par exemple, des artefacts anciens utilisés de façon pratique, bon, vont être conservés par certains et par d'autres vont être remis en question par des apports d'autres outils informatisés, par exemple. Mais ça dépend de quelle est la liaison et l'importance de l'usage de ces artefacts avec l'intention principale de l'utilisateur. Donc il n'y a pas de règle, on ne peut pas établir une règle en disant tel outil va bien marcher avec les utilisateurs. Donc il y a quand même cette notion de multi-usage, et ça aussi c'est un aspect un peu complexe de notre domaine, c'est qu'il n'y a pas un utilisateur. Dans ce que je montre ici, il y a au moins, en termes d'exploitation, au moment de l'exploitation, au moins le tuteur, au moins l'apprenant, sans doute des groupes d'apprenants, sans doute l'institution qui va avoir un œil aussi sur ce qui se déroule. Donc de prévoir qu'un artefact va répondre à tout, aux besoins de tous les utilisateurs, peut sembler un petit peu aussi excessif et une vision encore un petit peu trop intégratrice. On veut créer l'objet idéal pour des gammes de situations qui sont extrêmement larges. Alors je ne sais pas si je dis des bêtises.
De la place pour une seule question, sinon on ne respectera pas le temps. Je ne sais pas qui avait demandé avant, peut-être vous.
Peut-être, je crois que c'était Bertrand, il me semble.
Bertrand David, 17 Éco Centrale de Lyon. Alors deux choses en ce qui concerne la question qui n'avait rien à voir avec l'exposé, mais l'histoire d'éthique. Je crois que le problème, il faut l'ouvrir un peu plus, parce que dans les travaux collaboratifs, si la trace est individuelle, c'est un grain trop petit. Dans la collaboration, il faut effectivement remonter au niveau collectif. Alors après, le collectif, quel collectif? Et puis deuxième chose, saisir des bonnes pratiques est justement un des objectifs des traces. Et donc après, effectivement, on oublie la partie vraiment, vraiment personnelle et on en dégage quelque chose. Mais c'était pas ça ma demande initiale d'intervention. C'était plus sur la cascade d'informaticien en informaticien. On a des schémas plus intéressants que le développement en cascade. Les approches itératives aujourd'hui sont monnaie courante. Et je pense que si tu avais donné une présentation en approche itérative, ça deviendrait beaucoup plus intéressant. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, du coup, tes boucles que tu as mis, bon, on peut se poser la question si c'est celle-ci. Est-ce que la scénarisation couvre tout le parcours? Parce que ça, c'est un peu justement, est-ce que à quel moment, qu'est-ce que ça veut dire scénariser? Et puis, dernière chose, j'étais fondamentalement surpris de la dernière case de ton bas de la cascade, dont tu n'as pas parlé, mais qui s'appelait évaluation.
Ah non, dont je n'ai pas parlé. Oui.
Tu termines avec scénario efficace à la fin.
Effectif. Bon, si j'essaie de répondre aux différents... Alors, je répondrai sur le problème de cette vision-là, la vision boucle ou cascade. Pourquoi j'ai représenté en cascade, c'est pour montrer... C'est une intention de clarification, mais je suis totalement d'accord sur le côté évolutif et que les modèles en spirale, c'est ceux que j'utilise. C'est des modèles en spirale et c'est ça qu'effectivement que j'aurais voulu montrer, mais je pense que c'est plus lisible de montrer d'abord une cascade et après d'exprimer qu'il y a des boucles. Bon, alors peut-être que c'est pas réussi, mais c'est l'intention. La deuxième question, c'était sur... Alors, pour moi, la scénarisation, enfin, le terme est peut-être mal choisi. Ça, c'est quelque chose auquel on se confronte aujourd'hui, c'est que je ne sais pas donner un terme correspondant, sauf à exprimer une phrase de 3 km de long qui va dire organisation dynamique d'un système d'activité et d'instruments. Et cette organisation peut être faite avant, pendant ou après. Donc, et ça a des formes différentes. Et j'appelle ça scénario. Alors, c'est connoté, le terme scénario est connoté. Et du coup, on peut en venir à se mélanger les pinceaux et au niveau de communiquer l'idée. Donc, je n'ai pas d'autre terme à part peut-être de dire organisation dynamique de système d'activité. Oui, ben, j'ai tendance à essayer de calquer des processus d'ingénierie qui prennent en compte ce processus de scénarisation.
Bon, je pense qu'on va imaginer que la succession des interventions permettra d'éclairer les questions. C'est fait pour. Et on va donc passer la parole à...